Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle donc Bram, je suis néerlandophone. Votre pasteur m'a présenté comme prédicateur. Dans le domaine professionnel, je suis graveur, mais je suis chrétien. Je suis marié avec Sunny, la meilleure femme du monde. Ma femme. Je suis étudiant partiel à l'IBB, membre de l'église protestante évangélique de Liège, actif dans le domaine d'évangélisation à Tongres. Et cette semaine, ma femme et moi avons eu la joie, le privilège de participer à votre semaine d'évangélisation qui non seulement nous a nourris spirituellement, mais aussi charnellement, parce que j'ai un peu difficile à boutonner ma veste. Donc, et c'est là aussi qu'on m'a demandé si je ne voulais pas faire le message de ce dimanche. J'avoue que je suis un peu stressé. On m'a souvent dit que je suis un bon parleur, mais parler ou prêcher la parole de Dieu qui a toute autorité, pour moi, mais aussi pour vous, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais donc commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, gloire à ton nom. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi Tout-Puissant, le Seigneur et Sauveur de tes enfants, de ton Église, que tu tiens dans ta main souveraine. Aide-nous, aide-moi d'être fidèle à ta parole, ton unique parole, et garde-moi humble, pour que tes enfants puissent être édifiés, réveillés, encouragés, et que ceux qui te ne connaissent pas encore, dans ta grâce, tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils puissent se détourner du péché et se tourner vers toi comme leur seul Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Amen.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Apocalypse 2, la fin de votre Bible. Le verset 12 à 17. C'est suite à une série de prédications dans mon église que le pasteur nous a demandé à quelques hommes dans l'église de préparer notre première prédication. Cela est la deuxième fois que je prêche et c'est la deuxième fois que je prêche donc ce texte. Qui nous parle de l'église de Pergame. Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Et tu es fermement attaché à mon nom. Et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Avant de plonger dans le texte, je voudrais commencer avec une petite introduction historique. Ce n'est pas mon point fort, mais cela va nous aider à mieux comprendre le contexte. Pergame veut dire citadelle. Elle se dressait au sommet d'une colline de 300 mètres. C'était la plus importante localité de la Mysie. Grâce à Alexandre le Grand, cette ville est venue très importante et riche. Vers 130 avant Jésus-Christ, Pergame devient romaine. et capitale provinciale, Pergame était surtout un centre religieux important pour les cultes païens comme Bacchus, Zeus, mais aussi Esculape, le dieu, entre guillemets, de la médecine. Et depuis 29 ans avant Jésus-Christ, on trouve un temple dédié à l'empereur. Pergame est même devenue la capitale du culte à l'empereur. Cela nous montre donc pourquoi à plusieurs reprises le passage qu'on vient de lire dit « Là où Satan habite, là où le mal règne, là où le Satan a sa demeure ». Ça dépend un peu de vos traductions. Pergame était donc une ville, un siège d'opposition satanique. Là où on adorait toutes sortes de créatures, sauf le vrai Dieu créateur. Et par là donc, on adore le diable. Mais c'est là aussi que Christ, il a une église où il y a des chrétiens qui adorent le vrai et unique Dieu. Jusqu'ici, l'introduction historique. J'ai coupé ce passage en 4 sections. Et chaque partie, je vais essayer de l'expliquer, ce que le texte nous dit, et cela sera suivi d'une application pour nous. Le verset 12 commence avec « Écrit à l'ange de l'église de Pergame ». L'ange de l'église, c'est qui? C'est le responsable, le représentant de l'église. Ce que Jésus dit est donc directement adressé au responsable et indirectement aux croyants de l'église de Pergame. Jésus continue, verset 12, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » L'image de l'épée aux deux tranchants. On la retrouve à plusieurs endroits dans la Bible, et un des passages le plus connu, c'est en Hébreux 4, le verset 12, qui nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'épée à deux tranchants. Ce verset, dans son contexte aussi, nous montre ces deux angles. L'angle réconfortant, que c'est Christ qui est le vrai juge, c'est lui qui a le dernier mot et pas le diable. Mais aussi l'angle que c'est Christ, Dieu, qui châtie, reprend et qui purge son Église. Rappelons-nous, c'est son Église. Christ sait où l'Église a sa demeure, là où Satan habite. Christ connaît leur situation, qui est loin d'être facile, un endroit où partout autour d'eux, il y a de l'opposition satanique. Mais c'est là que Dieu les veut. C'est là où Dieu les a placés, comme une lumière dans les ténèbres. Ils n'ont pas déménagé. Et Christ sait que cela les a coûté cher. Antipas, mon témoin fidèle, dit Jésus, a été mis à mort à cause de son témoignage fidèle. Selon la tradition, il était grillé vif dans un taureau en bronze et on a mis un feu en dessous. C'est horrible, mais les croyants de l'église de Pergame sont restés fidèles à son nom. Vous dites, mais comment? Ils font face au diable. Parce que Christ les a placés là. Et c'est Christ qui a le dernier mot. C'est lui qui dirige tout, qui a vaincu le diable à la croix. Et maintenant pour nous, cela devrait nous encourager aussi. Christ non seulement sait tout, mais aussi, il conduit toutes choses. Il est tout souverain. C'est lui qui place ses enfants, même là, autour où tout nous semblait d'aller pire en pire, chaque jour, chaque année, un peu plus noir. Il nous tient dans sa main. Il ne nous ignore pas, il ne nous abandonne pas. Et cela est réconfortant. Mais aussi, même si autour de nous tout semble noir, nous sommes appelés à être une lumière. Et être fidèle, cela a un prix. Ce peut être pas la mort ou la torture ici en Belgique, ou pas encore, mais être ce témoin fidèle n'est pas facile et n'est pas apprécié par le monde. Et ces souffrances, ces épreuves, sont là pour nous éduquer, comme un père le fait avec son fils. Il le fait pour notre bien. C'est Christ qui nous a placés là où il veut. Il est au contrôle. Et en Christ, nous on peut être confiants, malgré l'opposition. Il est le vainqueur de chaque chrétien. Le verset 14 à 15 commence. « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine de Nicolaïte. Mais j'ai certaines choses contre toi. » Après l'encouragement, la reproche. Fidèle au nom de Jésus-Christ, oui, mais. C'est quoi la reproche et à qui il s'adresse? Le reproche, c'est que l'Église de Pergame, les responsables, ont toléré des gens dans l'Église de Christ qui vivent et enseignent une fausse doctrine, celle de Balaam et les Nicolaïtes, qui n'ont pas les mêmes origines, mais au fond, qui enseignent les mêmes choses. À l'Église d'Éphèse, nous apprend le verset 6, ils n'ont pas toléré ces faux enseignants, contrairement à l'Église de Pergame. La reproche de Christ, il est adressé à qui premièrement? Quand on regarde bien le texte, on voit une distinction entre ceux qui suivent ces faux enseignants, ceux qui suivent la doctrine de Balaam ou les Nicolaïtes, et à ceux qui se reprochent et adressés, les responsables de l'Église et les croyants. Ces faux enseignants ne sont donc pas leurs frères. Les Nicolaïtes et ceux qui suivaient la doctrine de Balaam sont bien dans l'Église de Pergame, mais ils ne font pas partie des croyants. C'est très important. Quand on regarde bien, qui est désigné par les mots « vous » et « toi », on voit les responsables et indirectement les croyants. Quand on regarde qui est désigné par les mots « des gens », on voit les faux enseignants et leurs disciples. Maintenant, la doctrine de Balaam. Pour ceux qui ont déjà lu leur Bible en entier, savent que Balaam n'est pas une personne très positive. Entre nombre 22 et 25, on voit Balaam, un prophète, peut-être un divin, c'est mieux, qui est mandaté par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites, qui après avoir traversé ces territoires vers le pays de Canaan. En cours, à travers cette histoire, on voit un Balaam qui sait que Dieu l'a interdit d'aller maudire les Israélites. Mais Balaam, qui après insistance, part quand même pour aller maudire les Israélites. Dieu qui l'arrête sur son chemin, il continue son chemin. Quand il veut maudire, Dieu fait en sorte qu'il a des bénédictions qui sortent de sa bouche et cela se répète trois fois. On voit donc clairement comment Dieu était au contrôle. Et maudire était impossible. Mais qu'est-ce que Balaam fait? Il ne tremble pas devant Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Mais il n'a aucune crainte. pas de respect, pas d'amour pour Dieu. Et cela se voit surtout après. Au nombre 31-16, nous montre que Balaam va conseiller le roi de Moab d'envoyer des jolies filles étrangères pour faire des grands festins, pour pervertir les Israélites, pour qu'ils commettent et vivent dans la débauche, mangent des viandes sacrifiées et par là aussi tombent dans l'idolâtrie. Et de la même manière, l'Église de Pergame a toléré des gens qui se disaient chrétiens, mais vivaient dans l'immoralité sexuelle et mangeaient des viandes sacrifiées. Probablement du genre, tant que spirituellement tout va bien, mon corps n'est pas important. Je peux faire ce que je veux. Pourtant, leur comportement était contraire à la règle apostolique de Actes 15, 29, de s'abstenir de la viande sacrifiée et de l'immoralité sexuelle. Mais maintenant pour vous, c'est quoi la leçon? On pourrait parler de ce qu'on voit dans certaines églises, surtout dans le monde occidental, même ici en Belgique, qui ont accepté le mariage homosexuel, et j'aime pas utiliser ces deux mots ensemble, parce que ça n'existe pas. Le seul et vrai mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Mais aussi le transgenre et toutes ces choses où on est bombardé avec aujourd'hui. Mais avant de pointer le doigt vers les autres, ce qui est tellement facile, j'aimerais bien qu'on regarde à nous-mêmes. Comme dans l'église de Pergame, il y a deux groupes. Ceux qui vivent comme ces faux enseignants et les croyants. Deux groupes, deux catégories. Le premier groupe, je donne quelques exemples. Ceux qui se disent chrétiens, mais sans aucun problème, ils cliquent sur un site de pornographie. Ils aiment cela, ça fait partie de sa vie. Ou l'autre qui dit, écoute, tant qu'on s'aime, coucher avant le mariage n'est pas si grave. Ou du genre, j'en ai marre de ma femme, de mon mari. Je me divorce et je prendrai bien une autre. Ou du genre, je me trouverai bien une femme ou un homme. Chrétien ou pas, ça n'a pas d'importance. Et je pourrais continuer. Mais on voit ici, dans ces exemples, un groupe qui connaît la vérité biblique, comme Balaam, mais ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas le désir de le suivre. Ils veulent peut-être bien être sauvés de l'enfer. Mais qui ne veut pas cela? Qui ne veut pas être sauvé de la colère à venir? Mais ils ne veulent pas avoir Christ comme leur maître et leur Dieu. Souvent, la grâce et la liberté en Christ, pour eux, sont un prétexte pour faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui dirigent leur vie et pas Dieu. Ils ne luttent pas avec le péché. Ils vivent dedans sous aucun problème. Du remords, ils l'ont peut-être de temps en temps, mais la repentance, ils ne l'ont jamais connue. Et être saint, ça ne les intéresse pas trop. Si on veut les aider, les amener à la repentance, ils refusent, ils ignorent. Ils vont justifier leur vie dans le péché. C'est peut-être très cru, et cela peut être plus subtil, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. Et il y a le deuxième groupe. C'est par exemple celui qui veut être saint, mais il a difficile. Il croit en Jésus, mais il n'est pas très fier de sa vie. Il a déjà tombé pas mal de fois. Il a déjà regardé la pornographie, ou même fait une mauvaise décision où là il supporte les conséquences. Mais chaque fois qu'il ou elle glisse ou tombe, il se sent mal. Il va à genoux, peut-être en pleurant. Il demande pardon. Il se repent. Conscient de sa faiblesse et dépendance, il continue son chemin. comme un imparfait, mais parfait en Christ. Il a la paix parce qu'il a le pardon de Christ. Pour lui ou pour elle, il y a plus de joie dans Christ que dans le péché. Deux groupes, deux comportements. Le dernier, le chrétien sauvé. Et l'autre groupe le confesse par leur bouche, mais n'est pas chrétien, et sont perdus s'ils ne se convertissent pas. Et moi, depuis que je dis que je suis chrétien, même baptisé, est-ce que j'ai une autre relation avec le péché? Je le déteste, je lutte? Ou est-ce que j'aime le péché? Je peux vivre dedans, je le justifie. Et ainsi que je montre que je ne suis jamais devenu un chrétien. 1 Jean 3,9 nous dit, « Quiconque qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne pêche pas et ne peut pas tomber. Mais cela veut bien dire qu'un chrétien a une autre relation avec le péché. Il le déteste, il lutte contre. Et toute la lettre de 1 Jean est là, en fait, pour nous donner l'assurance que si nous vivons ainsi, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, qu'il y a le pardon. Mais ainsi, la lettre nous montre aussi que ceux qui confessent par leur bouche d'être chrétiens, mais leur vie témoigne le contraire, ne le sont pas. Romains 6, 1, que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Le chapitre 6 de la lettre aux Romains nous montre que la grâce de Dieu, ce qu'il accorde, n'est jamais une excuse pour vivre dans le péché. Au contraire, c'est la grâce qui nous pousse à lutter contre le péché, à faire confiance en lui, en travaillant pour lui. La Bible, elle ne tourne pas autour du pot. La parole, elle divise. Christ, il divise. La vérité, elle divise. Et n'oublions jamais que la parole de Dieu a toute autorité. Et comme un pasteur a dit une fois, ton meilleur ami, c'est celui qui dit le plus de vérité. Ton meilleur ami, c'est celui qui dit le plus de vérité. Retournons vers le texte, le verset 16 à 17. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que Jésus ordonne? De se repentir. Qui doit se repentir premièrement? Les responsables de l'Église de Pergame. Ce sont eux qui ont des oreilles pour entendre. Ils doivent reconnaître qu'ils ont tort d'avoir toléré ces faux chrétiens, ces faux enseignants dans son Église. C'est Christ qui est à la tête de l'Église, et il la veut pure. Il a un époux jaloux. Il la garde dans sa main. Il ne veut pas que ses faux enseignants, ses faux chrétiens, fassent trébucher les croyants. Et il a une menace. Si vous ne faites pas votre travail, donc si vous ne vous repentez pas, Christ, il va discipliner son Église, les responsables, les croyants. Et il combattra ses faux enseignants par l'épée de sa bouche. Que doivent-ils faire? Christ vient de montrer que ces gens-là sont des fausses croyants, des fausses enseignants. Je dirais premièrement que Christ veut qu'eux aussi appliquent cette séparation et pas les considérer comme des frères vu leur comportement. Ils doivent leur annoncer l'Évangile. Et si l'Évangile, qui est toujours dérangeant pour le non-croyant est fidèlement annoncé, ou ils se convertissent, ou ils partiront, comme nous dit 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Ou ces faux enseignants seront mis dehors par les responsables. Et maintenant pour nous, la responsabilité pour les responsables de l'Église est grande et lourde. Ils ont besoin de nos prières pour qu'ils annoncent fidèlement l'Évangile, la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à être conformes à leur culture et ainsi vouloir remplir leurs églises avec des gens, en fait, qui ne veulent pas Dieu. Et cela, c'est tellement facile. De parler que de l'amour de Dieu sans de montrer l'autre face de la médaille, sa justice et son jugement à venir. La repentance, reconnaître qu'on a tort, ce qu'on a fait est mauvais, qu'on a été rebelle, qu'on a bafoué celui qui nous a créés. C'est par là que chaque chrétien commence à sa conversion. Mais c'est aussi quelque chose qu'on continue de faire dans notre vie chrétienne. Se repentir. Dieu qui a commencé avec un domaine dans notre vie, il continue, étape par étape. Cela fait mal. Mais c'est nécessaire. Car sans la sanctification, nul verra le Seigneur. C'est pourquoi, confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et il nous purifiera de tout mal, nous dit 1 Jean 1, 9. Quelle promesse et quelle grâce! Mais la repentance est probablement l'élément qu'aujourd'hui, dans le monde, mais aussi dans beaucoup d'églises, on ne veut plus entendre. Dieu est là pour me sauver. Mais moi, me repentir? Fléchir mon genou? Jamais. Je suis sauvé et c'est bien comme ça. Je continue ma vie. C'est faux ce que ces gens pensent. Ils ne seront pas sauvés. La foi, la confiance qu'on place dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ et la repentance, reconnaître qu'on a tort, sont inséparables. Si on les sépare, on ne peut plus parler d'un vrai foi qui sauve. Et maintenant, à ceux qui sont en Christ, est-ce qu'on aime tellement ceux qui nous entourent qu'on ose leur dire la vérité? Si par exemple, ton enfant, il vient à l'église et par exemple, il est baptisé ou il a dit « J'ai décidé de suivre Jésus-Christ », mais il ou elle vit dans le péché, sans que cela, lui ou elle, semble de causer des problèmes. Il justifie son péché. Ose-t-il lui dire, par amour, « Mon enfant, je t'aime tellement. Si tu continues de vivre ainsi et tu ne te repens pas, il y a une très grande chance que tu n'aies jamais été converti. » Tu le dis par tes lèvres, mais ta vie témoigne le contraire. Et cela peut être dans l'adultère comme dans d'autres péchés. Oses-tu lui dire, repens-toi et crois en Jésus-Christ. Convertis-toi, sinon tu es perdu. Moi, j'ai dû dire ça à quelqu'un très proche. Pas facile, mais je l'aime trop. Est-ce que vous aimez vraiment ceux qui vous entourent? Et toi qui confesses par ta bouche d'être chrétien, mais tu ne l'es pas, devant tes parents, ta femme, ton mari, le pasteur, l'église et tout homme, tu peux faire l'hypocrite. Mais sache que Dieu, il voit tout, il sait tout. Et si tu ne te convertis pas, si tu te repens pas, si tu ne reconnais pas que tu es coupable devant ce Dieu trois fois saint, et tu ne places pas ta confiance, ta foi, ta vie en Jésus-Christ, lui qui est mort pour tous ceux qui croient en lui, et ressuscité pour leur donner la vie. Ben là, quand ici sur terre c'est fini, et ça peut être dans une heure, comme ça peut être dans quelques années, et tu es devant ce trône de Dieu, est-ce que ta confession va te sauver? Non, elle va te condamner. Et ce sera juste. Tu seras jeté dans l'enfer, tu souffriras, tu brûleras pour l'éternité. Parce que tu n'as pas voulu fléchir le genou. Fléchis donc ton genou. Accepte sa grâce. Tu ne peux rien y ajouter. La seule chose que tu apportes à ton salut sont tes péchés. Et tu seras libre en Christ, pardonné, gracié, déclaré juste. Tu auras la vie éternelle. Oui, cela a un prix ici-bas. Dieu ne promet rien et nulle part qu'on aura une vie facile. Mais la paix et la joie qu'il donne surpassent toute chose. Il n'est donc pas encore trop tard. Tu vis dans le temps de la grâce. Repens-toi et crois en Jésus-Christ. Lisons le verset 17. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La récompense, c'est pour les vainqueurs, à ceux qui ne font pas de compromis avec le péché. Christ donnera de la manne cachée et un caillou blanc. Sur cette dernière partie, il y a plus de 1000 variations, les unes les plus compliquées que les autres. Et ce que les commentateurs sont d'accord, c'est que cela nous parle de la récompense pour ceux qui auront vaincu. Pour moi, ce qui me semble le plus biblique, je peux me tromper, mais que la manne cachée, c'est Christ en Jean 6, 51. Chaque chrétien a déjà cet avant-goût à son retour, lors de notre glorification, ce qui lui appartient seront pleinement lui. Parfait. Plus de larmes, plus de souffrances et surtout plus de péchés. Et le caillou blanc, comme l'entrée avec un nouveau nom, un nouveau corps, lavé par le sang de Jésus-Christ, et un nouveau nom, comme un nouveau départ. Quelle espérance! Et nous? Est-ce que c'est ce qui est sûr, c'est que la promesse, donc la vie éternelle, le ciel, la récompense, est que pour les vainqueurs, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui veillent jusqu'à la fin. Une promesse merveilleuse, quelque chose que chaque chrétien désire avoir, être avec Christ, son Sauveur et Dieu. Je pourrais arrêter là, mais j'ai beaucoup de frères et sœurs qui me demandent, et c'est une bonne question, comment persévérer? Comment vaincre? Comment veiller? Comme moi, je fixe mon regard sur mon être imparfait, mes luttes et mes chutes, je suis loin d'être encouragé pour persévérer. Tout en moi dit, c'est foutu, quand je regarde moi. Mais il faut que je revienne. Et moi, j'en ai besoin tous les jours, que je me renouvelle en Christ, dans sa parole, par son Saint-Esprit, que je fixe mon regard, pas sur moi, mais que je fixe mon regard sur ce que Christ a accompli à la croix. Lui qui a vaincu la mort, le péché, le diable. Sans lui, mes frères et sœurs, on ne sait rien faire que chuter. reviens à lui. Reviens à l'Évangile. Tu as commencé ta nouvelle vie en Christ par grâce. Maintenant, continue de dépendre de sa grâce. Sans lui, tu ne sais rien faire. Tu es comme une branche greffée en Christ. Quand tu vois un frère ou une sœur qui lutte, aide-le, ramène-le à la croix. Christ est comme notre pompe d'essence, si je peux le dire comme ça. Et notre réservoir est péniblement petit. On l'oublie. Il a fait ainsi pour que nous, dans notre faiblesse, on reste attachés à lui. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? Ne c'est pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La victoire est pour ceux qui sont en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et en cette assurance, en Christ, il nous pousse à travailler à notre salut, avec crainte et tremblement, car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, pas le nôtre. Pour résumer ce qu'on a vu, Christ, il a le dernier mot. Il connaît notre situation, il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Mais Christ ne veut pas de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle dans son Église. Il ne veut pas le monde dans son Église. Il la veut pure et veut que nous, les croyants, ne nous endormirons pas et que nous cherchons à vivre dans la sainteté et d'être clairs, de ne pas tolérer des faux enseignants, des fausses idées. Même là où le monde nous dit que tout cela est permis, d'annoncer l'Évangile, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ à ceux qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Et d'encourager notre frère ou sœur en Christ, et nous-mêmes, bien sûr, en revenant à la croix, en revenant à la grâce, en revenant à l'Évangile, qui est le moteur de chaque chrétien. Et c'est comme ça qu'on voit que l'Évangile n'est pas que le ABC de la vie chrétienne, mais le A jusqu'au Z de la vie chrétienne, nous dit Timothée Keller. Jusqu'ici. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est claire. Aide-nous à veiller, à être fidèles à toi, à nous renouveler en toi, pour que là où tu nous as placés, on puisse être cette lumière. Et cela par toi, qui nous tient dans ta main, qui ne nous abandonne pas. Donne-nous la force de faire ce que tu demandes, puis demande-nous tous ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.